portrait de vigneron. Rencontre avec Stéphane Lucas du domaine Le Champ d'Orphée. Comment vous en êtes venu à devenir vigneron ?
J'en suis devenu puisque je ne suis pas issu du milieu viticole. Mes parents étaient des citadins qui habitent à la campagne, au milieu des bois. Donc absolument pas de contact avec le monde agricole et la production agricole. Donc c'est par intérêt particulier pour la vigne et le vin, chose qui est assez répandue. Je me suis dirigé vers le monde agricole et le monde viticole en particulier. Donc tout simplement par une formation agricole des plus classiques que j'ai décidé de faire. À l'époque, ça s'appelait un contrat de qualification, ce qui permettait de faire des études et de travailler sur le terrain, puisque deux propositions ont été faites, soit d'aller dans une école d'agriculture pour devenir un ingénieur et faire que de la théorie pendant 5 ans, ou bien de passer par le terrain et de travailler sur le terrain pour apprendre le métier avec les gens qui le pratiquent et non pas avec les gens qui le pensent. Donc j'ai choisi cette voie-là, puisque c'était le terrain qui m'intéressait.
Donc à la base, pas forcément ce que vous aviez choisi de faire, vous aviez choisi de devenir musicien professionnel.
Oui, j'ai exercé la profession même pendant quelques années. J'étais un heureux intermittent du spectacle, voilà, parce que ça a été mon premier choix à l'adolescence, il a fallu faire un choix. Et j'avais beaucoup d'intérêt pour ce milieu-là et pour cette pratique-là, une approche artistique, une sensibilité artistique peut-être. Alors, n'étant pas issu justement du milieu agricole, je n'ai pas pu bénéficier d'un héritage quel qu'il soit, mais quelque part ce fut un avantage dans la mesure où j'ai pu tout choisir. J'ai pu choisir le terroir, j'ai pu choisir le cépage, j'ai pu choisir la commune. Voilà, je n'avais pas d'entrave ni de pression familiale particulière pour la reprise de l'exploitation. Donc j'ai choisi le cépage le plus intéressant, à mon avis, que l'on trouve ici, qui s'appelle le fer cervadoux, qu'on appelle aussi brocol. Sur un terroir de calcaire, hein, le terroir qu'on appelle les calcaires d'Albi, donc c'est le plateau cordé au nord du Tarn qui redescend jusqu'à Albi et qui vient mourir à Castelnau-de-Lévis. Donc je suis sur les premières terrasses du Tarn dans le prolongement d'Albi sur la commune de Castelnau-de-Lévis.
Et donc vous disposez de quelle surface de vigne ?
Alors, c'est une micro exploitation. Aujourd'hui, il y a 77 arts, donc ça fait un 3/4 d'hectare. Donc c'est très très petit. Mon objectif étant d'arriver à terme à 2 hectares, 2 hectares et demi.
Justement, donc vous avez démarré depuis combien de temps ?
Alors le premier millésime, c'est 2008, donc c'est relativement récent. Et donc ma structure est en plein développement. L'idée était de travailler un très bon cépage sur un très bon terroir, et essayer d'arriver à l'optimum des capacités du cépage, du terroir et du vigneron également, pour faire un vin qui ait le plus d'identité possible, le plus de caractère possible. Et avec ce vin-là, justement, essayer de m'installer commercialement pour pouvoir me développer ensuite. Donc j'en suis à cette phase-là où j'ai pu générer des réseaux commerciaux qui correspondaient au vin que j'élaborais. Donc j'exporte aux USA, j'exporte en Belgique, je travaille beaucoup sur Paris. Et puis un tout petit peu ici dans le Tarn, dans des restaurants qui sont intéressés par le vin, par les vins de caractère.
Comment élaborez-vous vos vins ?
Alors déjà, je considère que le vin se fait à la vigne, puisque le vin est issu du raisin, donc le raisin conditionne absolument le produit fini, on dira. Donc je travaille dans le respect du cahier des charges de l'agriculture biologique, voilà, pour orienter un petit peu les choses, mais pas seulement, j'essaie d'être même plus restrictif. Je suis d'ailleurs labellisé chez Nature et Progrès. Voilà, donc ça passe par aucune utilisation de produits de synthèse, une utilisation donc pour la protection de la vigne uniquement du cuivre et du soufre. Du cuivre en très petite quantité, puisque c'est un métal lourd qui n'est pas forcément désirable dans le sol, donc j'aimerais même à terme pouvoir m'en passer totalement. Mais aujourd'hui, j'en utilise encore un petit peu. On est en général en dessous de 2 kg par an, par hectare, alors que le cuivre est autorisé à 6 kilos. Donc on est vraiment à des doses qui sont très faibles. Je suis sûr que je vais pouvoir descendre encore. Voilà, et ensuite l'utilisation de préparations type extraits végétaux, donc ce qu'on appelle plus communément le purin d'ortie, la fougère également, la prêle. Voilà, des préparations que l'on applique à des moments particuliers pour répondre à des attentes particulières du végétal. Tout ce qui est naturel, non brevetable et que sur lequel on ne peut pas tirer des royalties est attaqué par l'Union européenne. C'est le cas avec les semences. Enfin, Coco Pelli a pris un coup de gourdin sur la tête là récemment à cause de ça. Et tout ce qui est produit naturel, de toute façon, est toujours sur la sellette. C'est pas du tout dangereux. On peut même en boire un verre, hein. C'est pas gênant. C'est pas bon, mais c'est pas dangereux. Par contre, on peut pas mettre de brevet dessus. Donc, voilà. Ça pose problème puisqu'on peut pas faire d'argent avec.
Dans la production classique, quel type de produit on peut mettre sur la vigne?
Alors, la vigne est une plante qui est assez fragile. Enfin, elle est devenue fragile puisqu'elle ne l'était pas jusqu'au 19e, mais avec les échanges avec le continent américain, on a fait venir le mildiou, l'odium, la cicadelle, la flavescence dorée, etc. Donc aujourd'hui, il faut trouver des produits qui limitent ces ravageurs, qui sont essentiellement des champignons ou des petits insectes. Donc, on a, je dirais, trois familles. Donc, il y a une famille qui va être les insecticides, donc qui vont venir gêner ou détruire tout ce qui est insectes, bien sûr. Donc ça va être les vers de grappe, ça va être des cicadelles vertes ou la cicadelle, la flavescence dorée. On va avoir une famille qui va être des fongicides. Donc en cuivre, ça sera cuivre et soufre contre le mildiou et l'odium. Et ensuite, on va avoir une troisième famille qui sera tout ce qui est fertilisant. Donc en bio, on utilise de la matière organique, donc des composts ou de la matière organique fraîche selon le souhait de chacun, et également les extraits végétaux, notamment le purin d'ortie, qui va donc apporter des éléments minéraux par le feuillage.
Et dans le conventionnel, on va utiliser les engrais classiques
voilà. On aura à peu près les mêmes contraintes. Par contre, on va avoir des produits complètement différents, donc essentiellement des produits de synthèse qui seront des fongicides aussi, des insecticides aussi, et des engrais qui seront la plupart du temps des engrais chimiques de synthèse.
Parce que pour se donner une idée, donc vous avez moins d'un hectare, mais une exploitation viticole entre guillemets classique, c'est combien d'hectares?
Ici sur notre région, je crois que la moyenne est environ à 20 hectares.
Donc ça n'a rien à voir.
Oui, mais le travail n'a rien à voir non plus, mais l'objectif n'a rien à voir non plus. Hein, voilà, quand on fait un vin que l'on veut présenter dans un pichet à midi au restaurant au coin de la rue et qu'on doit le vendre peu cher, on est obligé de faire un travail qui demande peu d'investissement. Quoi. Donc ça n'a rien à voir. Moi, j'ai pris l'option inverse où j'essaie d'élaborer un vin qui a véritablement un caractère, une authenticité et qui se doit d'être expressif. Donc de passer par énormément de travail, donc avec un coût de production très élevé.
Portrait de vigneron. Vous avez un petit peu démarré sur un petit coup de bluff avec cette histoire de vous avez présenté un vin comme ça que vous avez un peu bricolé du coup.
Oui, la première année c'était véritablement du bricolage puisque j'ai vinifié à l'extérieur quasiment, enfin pas quasiment, totalement sans moyens aucun, voilà, mais seulement avec beaucoup d'amour et beaucoup de travail à la vigne. Donc le raisin est arrivé dans la cuve avec une maturité optimale et puis un potentiel très élevé. Et pour rigoler sans doute, je l'ai présenté donc à un concours national des vins de pays qui a lieu pendant la London Wine Fair. Donc c'est le gros salon du vin qui a lieu à Londres chaque année. Et il a été élu parmi les 10 meilleurs vins de pays de France. Voilà, en étant fait à la main uniquement et dehors et en concurrence avec des vins technologiques issus de très très grosses structures. Voilà. Depuis, le règlement a changé, j'ai plus le droit de le présenter. Voilà, puisque je fais pas assez de volume. Mais voilà, c'est une blague.
Et donc, quand on est comme vous, quand qu'on démarre dans le métier et qu'on a rien en fait pour démarrer, comment ça se passe? Et si on se projette dans le temps, il faut compter combien d'années pour réussir, on va dire, à en vivre?
Alors déjà, oui, on peut dire que je partais de rien, puisque j'avais rien du tout, un seau et un sécateur, sans doute. Donc la première étape, c'est forcément d'aller voir le banquier, puisque on n'a pas d'alternative, il faut acquérir au moins un petit foncier et le minimum de matériel. Donc la banque étant ce qu'elle est, c'est comme chacun sait une œuvre philanthropique, donc il faut s'en méfier quand même, donc il faut essayer de faire avec le minimum, toujours avec le minimum, et démarrer donc le plus petit possible. Et ensuite, il faut compter au moins 3 ans avant de pouvoir, en tout cas 2 ans et demi avant de pouvoir récolter les fruits du travail que l'on a commencé. Puisqu'on travaille la vigne avant de la récolter, donc déjà on la travaille pendant 1 an. Une fois qu'on l'a récoltée, il faut élaborer le vin. Il faut compter à peu près 1 an. Et ensuite, il faut commencer à le vendre. Et là, ça peut prendre aussi un certain temps. Donc, il faut compter au moins 6 mois, 1 an avant de commencer à avoir les premiers retours. Donc, ça sous-entend de vivre en apnée pendant 2 ans, ou 2 ans et demi, voire 3 ans. Et en même temps faire face aux charges qui s'accumulent des années qui vont suivre, puisque la vie ne s'arrête pas, il faut, pendant qu'on élève le vin de la première année, il faut travailler la vigne pour la seconde récolte. Donc voilà, ça demande beaucoup de sacrifices justement, puisqu'il y a une immobilisation assez longue, ce qui n'est pas le cas pour des fraises ou de la salade qui se récoltent assez rapidement et qui se vendent très rapidement aussi.
Vous pensez que le passage par une école, ou apprendre l'œnologie ou je ne sais quoi, c'est utile pour apprendre à faire du vin?
Alors il y a forcément des notions très importantes, des notions de base qu'il vaut mieux acquérir. Alors pas forcément à l'école, on peut très bien l'acquérir avec des livres, mais c'est vrai que l'école, les formations aujourd'hui sont quand même assez intéressantes. Enfin, si on choisit bien le centre de formation, bien sûr, et si on a la chance de tomber sur des enseignants intéressants, on peut gagner pas mal de temps. Mais comme tout enseignement, c'est aussi un formatage, donc il faut pas mal de recul et pas mal de sens critique pour essayer de pas tomber non plus dans les ornières. J'appelle ça une ornière parce qu'après on a beaucoup de mal à en sortir. De façon à pouvoir rester soi-même et avoir sa propre vision du métier et avoir la force de prendre ensuite ses propres options dans le métier. Sachant qu'ensuite, la plupart du travail, ça prend sur le terrain. Et je regrette pas mon choix là dans ma formation d'avoir véritablement passé du temps sur le terrain. Parce que c'est là qu'on apprend la plupart des choses.
Actuellement, il y a un petit effet de mode, mais j'espère que c'est plus qu'une mode autour du vin nature. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce petit mouvement par rapport aux consommateurs, ou au goût, au formatage qu'il y a pu avoir à une époque?
C'est pas un petit mouvement, c'est un gros mouvement qui va faire que s'amplifier. Et c'est un mouvement, comme la plupart des mouvements, qui est venu en réaction à l'industrialisation du monde viticole, à l'uniformisation du goût. Et aux pratiques agro-industrielles qui se développent de plus en plus dans le monde viticole, pour des raisons tout à fait compréhensibles, qui sont liées surtout à la sécurisation de la production au départ, et ensuite à la réponse que les commerciaux amènent à la demande, qui est de plus en plus formatée par l'agro-industrie. On est dans une culture Coca-Cola, jambon sous vide, voilà. En fait, c'est la facilité, donc c'est le sucré, le goût facile et surtout l'uniformité. Il faut retrouver toujours le même produit dans toujours la même bouteille, de manière à pas être déçu et à ne pas tomber dans l'océan de la diversité.
Du coup, le vin, c'est justement ça, c'est que d'une année sur l'autre, on ne sait pas quelle récolte on va avoir, quel temps il va faire, comment va être le raisin.
Absolument, le vin, c'est ça. C'est pour ça que la notion de millésime est si importante, c'est qu'à partir d'une plante pérenne, on a des résultats qui sont complètement différents d'une année sur l'autre. Thank you.
concernant les vins vivants, vins nature, etc., il n'y a pas de définition propre, mais quelle est un peu votre définition, vous, d'un vin dans toute sa richesse, d'un vin complexe, on va dire, et puis qui soit en lien avec son terroir?
Alors, il n'y a pas de définition, mais déjà, on peut faire une contre-définition, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui vient en réaction à l'industrialisation du monde agricole et du monde viticole en particulier. Il suffit de voir dans la Beauce ce qui se passe, mais au niveau du vin, ça pose d'autres problèmes, puisque le vin a toujours été porteur d'une identité liée au cépage, d'une identité liée au terroir, à une région en particulier. Donc ça pose d'énormes problèmes puisque l'industrialisation nous amène vers l'uniformisation des pratiques, l'uniformisation du goût, la rationalisation aussi des pratiques en vue de maîtriser les coûts de revient pour être compétitif, etc. Ce sont toutes ces notions-là qui sont prises en compte dans l'agriculture moderne. On prend souvent comme point de départ dans la réflexion la rentabilité. Voilà. Alors que les gens qui sont amoureux véritablement du vin, de l'expression du terroir, de l'expression du cépage, de l'authenticité, ont une toute autre éthique et partent véritablement du vin, du patrimoine. Voilà. Donc c'est déjà la démarche là est complètement opposée. Déjà on peut avoir une première définition par la recherche d'une authenticité la plus grande possible. Alors concrètement, ça va passer par des pratiques agricoles qui seront plutôt orientées vers l'agriculture biologique. Pourquoi ? Parce que l'agriculture biologique va générer plus de respect, en théorie en tout cas, plus de respect sur les sols, de la durabilité aussi sur les sols. À mon avis aussi, ça amène plus d'expression dans le raisin. Et ensuite, en cave, pour faire vite, au niveau de la cave, on va essayer de mettre en œuvre des pratiques qui ne masquent pas les caractéristiques du terroir et les caractéristiques du raisin tel qu'il a été amené à la cave. Donc ça va limiter pas mal les pratiques. En premier lieu, le levurage, qui ne sera pas effectué, puisqu'on va essayer de travailler avec les levures du terroir, les levures naturellement présentes sur le terroir. Ça va être également par une recherche d'équilibre qui permettra aux vignerons de ne pas utiliser de soufre, ou d'en utiliser très peu. Et ça va passer par une interdiction d'utiliser toutes sortes d'intrants qui vont maquiller le vin, cacher ses défauts ou développer des qualités qui n'ont rien à faire dans le vin. Alors ça passe par tous les intrants qu'on peut avoir dans l'agroalimentaire, donc tout ce qui se cache derrière les œufs, qui sont parfois pas très comestibles. Je vous renvoie d'ailleurs à la liste de l'hôpital de Villejuif pour ça. Parce que l'hôpital de Villejuif, c'est pas un petit groupuscule dangereux, hein, c'est quand même sérieux. Donc il y a une liste à regarder par rapport à ces additifs alimentaires. Donc on peut en retrouver dans les vins dits industriels. Mais ça passe également par des pratiques qui sont de chauffage, refroidissement de la vendange, et par des utilisations de copeaux de bois également, qui vont maquiller le vin, ou lui apporter du gras, lui apporter du volume, ou des arômes particuliers. Si on travaille, j'ai l'habitude de dire propre, c'est-à-dire que on va faire attention à son raisin du début à la fin, on va rentrer un raisin qui aura une maturité optimale, une qualité sanitaire optimale, on va avoir une hygiène au chai qui sera optimale aussi, avec une gestion de l'oxygénation qui sera raisonnée, on peut tout à fait se passer de sulfite. Il y a une pléthore d'exemples, il n'y a pas de problème, il y a énormément d'exemples qui nous prouve qu'on peut se passer de sulfite. Il y a aussi des contre-exemples, parce que par idéologie, il y a des gens qui se lancent dans cette démarche-là et qui n'ont pas l'exigence suffisante, ou les connaissances, ou la rigueur suffisante, et on a des vins qui sont déviés et imbuvables parce qu'ils ont tourné la plupart du temps au vinaigre, ou atteints par des levures qu'on appelle les Brettanomyces et qui développent des arômes de sueur de cheval. Voilà, donc là c'est ignoble. Donc il faut aussi pas se raconter d'histoire. Il y a des vins qui sont faits en nature et qui sont, à mon avis, imbuvables, mais il n'est pas impossible d'en faire de très bons. Et souvent les plus expressifs et les plus authentiques sont ceux qui sont faits selon des principes de respect et de développement des qualités organoleptiques du terroir et non pas des pratiques industrielles.
Et puis, pour finir, un argument qui est souvent mis en avant, un vin sans sulfite, ça ne se garde pas.
Tout dépend quel vin. Il y a des vins qui ne sont pas faits pour se garder, déjà. Ça, il faut déjà être honnête et dire ça. Il y a des vins qui sont faits pour être bu rapidement, ce qui n'est pas un défaut. Hein, et je ne vois pas pourquoi ça serait un défaut. Il y a ça. Et ensuite, il faut voir quel vin on choisit. Si on choisit un vin qui a été fait dans les règles de l'art ou pas. Mais un vin qui a été fait dans de très bonnes conditions et qui est très sain, il n'y a aucune raison qu'il ne se garde pas. Moi, j'en ai moi-même dans ma cave. Il y a pas de souci, il y a pas de déviation sur ces vins-là, sauf si on les achète en plein été et qu'on les transporte dans sa voiture à 35 degrés pendant 15 jours, évidemment il peut y avoir des pépins, mais si on fait un minimum attention et qu'on respecte le vin, il doit tenir aussi bien sinon mieux qu'un autre.
Ok, bien merci beaucoup. Et puis on vous souhaite bien de continuer et puis de grandir comme ça tout doucement avec vos pieds de vigne, et voilà. Et merci pour cet entretien.
Merci à vous.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Stéphane Lucas à l'adresse lechampdorphée@hotmail.fr. Cette émission est une production de Radio Girafe, placée sous licence Creative Commons. Paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Le morceau de musique utilisé pour l'habillage sonore est de The James Quintet, trouvé sur la plateforme de musique libre Jamendo. Il est également placé sous licence libre.
Avec Radio Girafe, on prend de la hauteur.